pour cette nouvelle édition du cours Biblos. Et nous sommes très, très heureux cette année de pouvoir étudier ensemble le livre de l'Apocalypse. Nous avions étudié l'an passé le livre de Daniel. Et puis, ce soir en particulier, nous aurons une esquisse générale de l'Apocalypse avec Roger Lippi, que je remercie de participer à ce cours Biblos. On est vraiment reconnaissant, le comité Biblos, de compter 269 inscrits pour ce cours. Certains sont avec nous ce soir, d'autres l'écouteront plus tard puisqu'il sera mis en ligne sur le site Internet. Et vous venez de 16 pays différents, en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique, en Haïti. Donc à toutes et tous, nous souhaitons une très cordiale bienvenue et nous sommes heureux que vous soyez là pour ce cours. Je ne vais pas faire une introduction plus longue, si ce n'est de prier pour remettre ces instants et ensuite je céderai la parole à Roger. Je vous invite donc à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier, te louer pour cette occasion que tu nous donnes ce soir d'étudier ta parole. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui est resté certainement et qui reste peut-être pour certains d'entre nous un livre un peu obscur, difficile à comprendre. Et pourtant, il nous révèle des grandes choses à venir et nous voulons te demander ce soir que tu nous donnes à toutes et tous des cœurs prêts à écouter, prêts à recevoir cette parole et qu'elle puisse nous encourager, qu'elle puisse nous aider à fixer les yeux sur toi, Dieu notre Père, en sachant que tu es un Dieu souverain, que tu règnes et que rien n'échappe à ton contrôle et que même tu es le Dieu qui prévoit aussi la suite des temps. Et si nous avons ce Dieu-là, nous pouvons lui faire confiance aussi pour nos propres vies. Et c'est pour cela que nous voulons aussi remettre ces instants entre tes mains. Te demander que tu sois avec nous, tu veilles sur la technique, que tu veilles sur chacun d'entre nous. Et que tu sois en particulier avec Roger, qui sera notre orateur ce soir, que tu le bénisses, l'accompagnes pour cette présentation. Nous te t'adressons cette prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, Roger, c'est à toi. On t'entend bien, c'est magnifique.
Bonsoir à tous. Nous avons à cœur de faire un survol cette soirée du livre de l'Apocalypse. C'est une tâche énorme, mais on essaye de faire ce qui est possible. On va passer par le livre, chapitre par chapitre. On commence par Apocalypse 1. Et voilà, tout au début, le livre commence avec les paroles révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Eh bien, le terme traduit par révélation dans la version que j'ai utilisée, on peut aussi utiliser le mot grec apocalypse, qui veut dire que quelque chose qui était caché est maintenant mis à la lumière. Eh bien, le dernier livre de la Bible, ce n'est pas un livre qui cache et qui n'est pas compréhensible, mais le titre du livre indique que Dieu veut mettre à la lumière ses pensées. Et donc, il faut comprendre ce livre de cette façon. Comme on lit au verset 4, le livre est adressé aux assemblées qui sont en Asie. Asie est ici le terme pour une province de l'Empire romain, à la grandeur environ de la Suisse, avec voilà tous ces sept endroits d'église qui sont adressés par Jean, qui à l'époque était sur l'île de Patmos, et nous voyons sur la carte cette île se trouve tout près de cette province Asie. ici vous avez vu, de cette île, eh bien, par l'empereur Domitien, il a été envoyé sur cette île pour le mettre en quelque sorte en prison pour son témoignage pour Christ. Donc, il a souffert pour Christ et le jour du Seigneur, comme le dit le verset 10, il a reçu donc cette merveilleuse révélation du dernier livre de la Bible. Et voilà, il entend une voix là au jour du Seigneur. Donc, le moment où il avait la coutume de se réunir avec les croyants pour louer le Seigneur, eh bien, il était là, isolé, mais le Seigneur se révèle. Et les expressions des vêtements du Seigneur qu'il voit sont les expressions qui étaient utilisées dans la tradition, dans la traduction des Septante, donc la plus vieille traduction de l'Ancien Testament, pour désigner les vêtements du souverain sacrificateur. Donc, il voit là, au chapitre 1er, le Seigneur Jésus dans sa gloire comme souverain sacrificateur. Mais ses yeux sont comme une flamme de feu. Et cela indique que cette même personne est le juge qui va venir dans l'avenir et va apporter donc la justice dans ce monde d'injustice. Eh bien, Jean voit le Seigneur marchant parmi les lampes d'or, c'est-à-dire il voit sept ménorotes. Ménorotes, c'est le pluriel de ménorah, donc le terme qui désigne le chandelier de cette lampe, comme il était déjà dans le tabernacle, mais au temple de Salomon, il y avait 11 chandeliers. Eh bien, cela nous aide à mieux comprendre pourquoi il y a plusieurs chandeliers. Mais j'en vois donc 7 chandeliers qui signifient les 7 églises qu'il adresse par ce livre. En plus, le Seigneur est appelé ici au chapitre 1, fils d'homme. Voilà l'expression de Daniel 7, versets 13 et 14, où le Seigneur est décrit comme celui qui va venir sur les nuées du ciel pour établir le royaume messianique. Donc, retenons, Jean voit le Seigneur au chapitre 1er comme le souverain sacrificateur, donc celui qui, par son sacrifice, a apporté le salut par sa première venue et le voit également comme juge qui, la deuxième fois qu'il va venir, va apporter la justice dans ce monde. Eh bien, le plan du livre est expliqué par le Seigneur au chapitre 1, verset 19, où il dit à Jean, « Écris donc les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Ainsi, nous voyons donc 3 parties. Les choses que tu as vues, c'est cette vue du Seigneur comme sauveur et juge au chapitre 1er. Je passe à la 3e partie. Le Seigneur dit les choses qui doivent arriver après celles-ci. Eh bien, si on ouvre chapitre 4, verset 1er, là nous lisons après ces choses. Je vis et voici une porte ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais ouïe comme d'une trompette parlant avec moi, disant, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. Donc, vous voyez les mêmes paroles, là à la fin du premier verset. Donc, cela rend clair le fait que depuis le chapitre 4, commence la 3e partie. Cela nous facilite pour comprendre où trouver la deuxième partie. Donc, l'expression « les choses qui sont » sont en relation avec les chapitres 2 et 3, où nous avons sept lettres envoyées à ces sept églises auxquelles s'adresse le livre de l'Apocalypse. Eh bien, ce plan du livre est fondamental pour bien comprendre le contenu. Nous passons au chapitre 2 et 3. Eh bien, nous avons donc cette lettre à ces sept églises de l'époque en Asie, et le Seigneur Jésus, comme souverain sacrificateur et juge, contemple les différentes assemblées locales. Et voilà, le Seigneur dit toujours au début de la lettre ce qui est positif. Ensuite, il explique ce qui est négatif et doit être changé. Donc, ces sept lettres sont très instructives parce que on peut toujours se demander qu'est-ce que ça veut dire à moi personnellement. Deuxièmement, qu'est-ce que ces lettres veulent dire pour l'assemblée locale où je suis. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce que ces lettres disent aux églises en général aujourd'hui. Mais il y a encore un autre aspect. Parce que le dernier livre de la Bible est entièrement un livre prophétique, comme nous apprenons par le chapitre 1er, verset 3. Donc, ce sont des paroles de la prophétie. Et cela nous aide à comprendre que ces sept lettres ont également une signification prophétique. Et effectivement, on peut voir des parallèles avec les sept lettres et avec le cours de l'histoire de l'Église depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est remarquable, on voit des parallèles avec sept étapes ou périodes de l'Église pendant 2000 ans. Et la suite correspond exactement à la suite des lettres comme nous les avons dans la parole. N'est-ce pas? Éphèse, l'épître aux Éphèses montre des parallèles avec l'Église non persécutée à la fin de l'époque des apôtres. Smyrne, la deuxième épître, a des parallèles avec le temps où l'Église a été persécutée du 1er au 4e siècle. Ensuite, la lettre à Pergame a clairement des parallèles avec l'Église après la conversion de Constantin en 313, où l'Église et le christianisme est devenu accepté par l'Empire romain. Thyatire montre clairement des parallèles avec l'histoire de l'Église en rapport avec l'Église papale de Rome à partir de 440 après Jésus-Christ. Sardes va en parallèle avec la réforme à partir du 31 octobre 1517 et son déclin. Et voilà, la lettre à Philadelphie montre des parallèles avec le mouvement du réveil au 18e et 19e siècle. Donc, c'était l'époque où les églises libres se sont formées. Ensuite, la dernière épître, Laodicée. Il y a des parallèles avec notre époque où nous voyons cette grande décadence spirituelle des églises libres. Eh bien, on peut dire cette partie intitulée par « Ce qui est ». Donc, actuellement Et donc, une partie qui s'occupe avec l'histoire de l'Église, et cela jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce que nous avons déjà lu au chapitre 4, verset 1er, après ces 7 épîtres, Jean est appelé à se rendre au ciel. Donc, chapitre 4, verset 1er parle d'un enlèvement de l'apôtre, qui, comme nous allons encore voir plus clairement, représente l'Église qui va être enlevée avant les jugements apocalyptiques qui vont être décrits à partir du chapitre 6. Eh bien, ces églises sont vues comme des étoiles, chapitre 1er, verset 20, et ils sont aussi représentés par des chandeliers d'or. Et cela est très important, parce que nous avons deux sources de lumière, étoiles, chandeliers. Le chandelier est donc la source de lumière dans le lieu saint. Donc, ça montre que chaque église a la tâche, ici, dans ce monde, donner de la lumière aux croyants. N'est-ce pas? Le chandelier était la source de lumière, d'abord dans le tabernacle, la seule source de lumière. Mais c'est la source pour les croyants qui doivent être guidés par la parole de Dieu et par la présentation de la parole de Dieu dans les églises. Mais nous avons donc aussi le symbole de l'étoile. Et c'est une source de lumière pour le monde entier. Donc, l'Église locale a la tâche pour donner la lumière aux croyants, mais aussi donner la lumière au monde pour les guider, pour leur témoigner du seul vrai chemin. Nous passons au chapitre 4 et 5. Lorsque Jean est enlevé au ciel, il voit tout de suite le trône de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le trône de Dieu? N'est-ce pas? Déjà dans le tabernacle, plus tard dans le temple de Salomon, l'arche de l'Alliance est donc une partie du trône de Dieu. Et Dieu a donc exercé son pouvoir depuis le lieu très saint en se révélant entre les chérubins. Et alors, cela montre que Jean a été enlevé au ciel, mais non pas simplement à la patrie céleste, n'est-ce pas? Hébreux 11 parle de la patrie céleste, mais il n'a pas été enlevé au Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Hébreux 11, 12 parle de cette cité qui se trouve au ciel, que Dieu a fondée. Mais il y a au ciel, à côté de la patrie, à côté de la cité céleste, il y a aussi le temple céleste. Par exemple, chapitre 11, verset 19 parle directement du temple de Dieu dans le ciel. Eh bien, nous voyons que Jean était enlevé vers le trône de Dieu. Donc, non pas simplement dans un des parvis, il n'a pas été envoyé dans le lieu saint, mais directement au centre du ciel, au lieu très saint. Et là, il voit le trône de Dieu. Et cela est déjà fondamental. Parce que le livre de l'Apocalypse montre que Dieu est toujours sur son trône et que tout dans ce monde lui est soumis à son autorité. Donc, même lorsque nous réalisons que le monde tombe toujours de plus en plus dans le chaos eh bien, nous savons que Dieu est complètement en contrôle de tout. D'ailleurs, il est excessivement intéressant de lire le livre de l'Apocalypse en ayant les yeux ouverts à toutes ces indications du temple céleste et des ustensiles du temple. Ici, sur cette photo, vous voyez des différents instruments musicaux du temple. Vous voyez le chandelier d'or et les coupes d'or pour le sang des sacrifices. Et vous voyez l'autel d'or, l'arche de l'Alliance, l'autel des holocaustes, et aussi le bassin d'eau, etc. Donc, la parole de Dieu, dans le dernier livre, parle en détail du temple céleste. Et tous ces symboles qui sont représentés ici ont une signification importante en rapport avec le livre. Donc, on peut apprendre ce que Dieu nous révèle sur le ciel. D'ailleurs, juste en parenthèse, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où plusieurs livres ont été publiés de personnes qui, soi-disant, sont mortes et sont revenues et ont parlé de ce qu'ils ont vu au ciel. Et voilà, bien des gens s'intéressent à de tels livres, mais ils ne réalisent pas que ce que ces livres révèlent, ce n'est pas une révélation. Parce que ça contredit à ce que la parole de Dieu nous révèle. Et la vérité sur le ciel, sur l'au-delà, on peut seulement apprendre par la parole de Dieu. Déjà, Abraham, en Luc 16, a clairement indiqué que ce n'est pas le plan de Dieu d'envoyer quelqu'un du ciel sur la terre pour raconter, au-delà de ce que la parole de Dieu a déjà révélé, de la gloire céleste. Eh bien, lorsque nous réalisons, là, au chapitre 4 et 5, nous sommes au ciel, au temple céleste, qui parle en fait de la grâce, parce que au centre du temple était toujours le sacrifice de substitution. Eh bien, nous voyons maintenant dans le dernier livre que les jugements futurs qui vont tomber sur la terre sont envoyés depuis le ciel, mais bien entendu depuis le temple céleste sur la terre. Donc, on peut dire, l'Apocalypse nous révèle une guerre du ciel, une guerre du temple céleste contre le monde. Et cela nous montre un monde qui a rejeté le sacrifice, le plan de Dieu de la rédemption par le sacrifice, tombe automatiquement sur le jugement de Dieu. Donc, exactement ce qui parle de la grâce devient le sujet du jugement. Eh bien, nous apprenons que Jean a vu le trône de Dieu. Et là, il ne voit pas simplement deux chérubins, comme nous avons deux chérubins sur l'Arche de l'Alliance, mais il voit quatre êtres vivants. Donc, terme déjà en Ézéchiel pour désigner des chérubins. Il voit quatre. Eh bien, dans le temple de Salomon, Dieu a révélé qu'il fallait ajouter encore deux chérubins. Ainsi, il y avait au lieu très saint quatre chérubins. D'ailleurs, Dieu est décrit sur son trône. Et là, nous lisons au verset 3 que Dieu ressemble dans sa gloire à un jaspis. Et il faut bien savoir que les termes des pierres précieuses ont, pour une partie, changé à travers de l'histoire. et aussi d'ailleurs d'une région à l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire une étude approfondie sur les pierres précieuses qui jouent un rôle important dans le dernier livre pour apprendre de quoi il s'agit exactement. Donc, 4 verset 3 nous dit que Dieu est semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et il faut dire, le jaspe, dans le Nouveau Testament grec, désigne le diamant. D'ailleurs, au chapitre 21:10, il est dit que le jaspe est totalement lucide. Et c'est parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous appelons aujourd'hui, en français, jaspe, mais ça désigne le diamant. Donc, le matériel le plus fort, le plus dur, il faut dire, qui existe sur la Terre. Et c'est donc un symbole que Dieu est le Tout-Puissant, qui tient tout sous son contrôle. Eh bien, nous avons en plus le sardius mentionné pour désigner la gloire de Dieu. Et vous voyez ici sur l'image le sardius qui ressemble bien au sang humain. Donc, ça nous parle que ce Dieu tout-puissant était prêt à devenir homme. Le Fils de Dieu est devenu homme pour mourir et pour donner son sang. En plus, en rapport avec la gloire de Dieu, il est aussi dit qu'il y a là la gloire autour du trône, semblable à une émeraude. Vous voyez cette pierre précieuse verte qui parle donc du fait que Dieu a un programme pour ce monde, pour l'avenir de ce monde. Et ce programme est vert. Pour cela, il ne faut pas les socialistes. Dieu a un programme. Si nous lisons Ésaïe 35, même les déserts vont être remplis de fleurs. Donc, Dieu va changer cette terre pendant le millénium, le royaume messianique futur. Et la couleur vert parle de cette bénédiction mondiale qui va venir, où Dieu va résoudre complètement, entre autres, le problème de la famine et les problèmes d'écologie. Donc, c'est le programme de Dieu en contraste avec le programme des socialistes. J'ai déjà expliqué que Jean voit autour du trône les 4 chérubins, comme il y avait 4 chérubins symboliques au temple de Salomon. Et là, il voit différentes faces. La face comme un lion, la face comme un taureau, la face comme un aigle et la face d'un homme. Et cela symbolise la façon comme Dieu agit. Et voilà, Dieu agit d'une façon royale. Donc, tous ces jugements qui vont tomber sur le monde ont le caractère du lion. Ils sont royaux. Ils expriment la majesté de Dieu. Et voilà, le taureau parle de l'endurance. Et tous ces jugements vont tomber sur le monde avec endurance. C'est-à-dire, cela va durer jusqu'au bout et jusqu'à ce que tout soit complet et complètement finalisé. Et voilà, l'aigle parle de la vitesse. Tous ces jugements vont venir et vont tomber, selon le livre de l'Apocalypse, pendant quelques années. Donc, très vite, non pas des centaines d'années ou des millénaires, Dans quelques années, tout va être accompli. Sept ans, comme nous allons encore voir, vont jouer donc un rôle fondamental. Et voilà, la face comme un homme symbolise le fait de, que tout ce que Dieu fait est caractérisé par la sagesse. Donc, tous ces symboles ici, en Apocalypse 4, nous parlent du jugement et de la manière comme Dieu exercera le jugement. Mais ces quatre symboles, n'est-ce pas, ont déjà eu une signification merveilleuse lors de la première venue du Seigneur comme sauveur du monde. L'évangile de Matthieu nous présente le Seigneur qui est venu comme le roi. Et l'évangile de Marc nous montre comment le Seigneur est venu pour servir. Donc, le taureau était utilisé pour le service. Bien sûr, on a neutralisé donc sa force sexuelle, et ainsi cet animal est merveilleux pour servir avec endurance. Et l'évangile de Marc montre en contraste avec Matthieu, non pas le roi, mais le serviteur. Et voilà, l'évangile de Luc insiste sur le fait que le Seigneur est devenu un vrai homme. Et l'évangile de Jean nous montre comme le Fils de Dieu est venu du ciel sur la terre pour après retourner à la gloire céleste. Et cela est symbolisé par l'aigle. Autour du trône, Jean voit 24 anciens avec des couronnes et des vêtements blancs de sacrificateurs. Qui sont ces 24 anciens? Eh bien, pour Jean, c'était clair, parce qu'il était juif, et jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ, il était habitué au service au deuxième temple à Jérusalem. Donc, il savait, ce qui est basé sur 1 Chronique 24, que tous les milliers de sacrificateurs en Israël, ils étaient regroupés en 24 classes. Et toujours une classe avait leur service au temple pendant une semaine, depuis sabbat jusqu'au sabbat. Ils étaient toujours sous le contrôle, sous la direction d'un ancien. Mais il y avait des périodes où on pouvait voir à Jérusalem non pas seulement un ancien, mais les 24 anciens. C'était pendant les jours de fête obligatoires pour chaque Israélite à venir vers Jérusalem. C'était à Pâques, Pentecôte, la fête de Shavuot, et aussi à la fête de Sukkot, donc la fête des tabernacles en automne. Parce que tout le peuple d'Israël devait se rassembler à Jérusalem, il fallait tous les sacrificateurs. C'est pour ça, pendant ces périodes-là, on voyait les 24 anciens. Et maintenant, comprenons. Jean vient au ciel par l'enlèvement. 4 versets 1er. Il voit les 24 anciens et par ça, il réalise tout le peuple de Dieu est là, présent au ciel. Qui est représenté par les 24 anciens? Eh bien, nous lisons au chapitre 1er de l'Apocalypse et au verset 5, au milieu, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Si nous apprenons que l'Église est constitué de sacrificateurs et rois. Voilà les 24 anciens, ils ont des robes blanches de sacrificateurs et ils portent des couronnes d'or, ils sont des rois. Ainsi, la conclusion est claire. l'Église tout entière se trouve au ciel. Chapitre 4. Et nous allons voir à partir de chapitre 6, les jugements de la colère de Dieu vont tomber sur la terre. Beaucoup de chrétiens se demandent, est-ce que l'enlèvement aura lieu avant, pendant ou à la fin de la grande tribulation? Eh bien, quand on fait cette lecture du dernier livre, et cela, bien entendu, sous l'arrière-plan juif, on comprend tout de suite, oui, l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Et Jean a vu aussi la gloire de l'arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Pourquoi? Pour dire que Dieu tient ses promesses. Il a dit, après le déluge, qu'il ne va plus jamais juger le monde par l'eau, par une inondation mondiale, locale, c'est possible, mais non pas une inondation mondiale. Donc, les jugements de l'Apocalypse vont être exercés tout en tenant la promesse donnée à Noé et à ses fils. Nous lisons également au chapitre 5 que Jean a vu sept feux devant le trône de Dieu. Eh bien, il a vu donc le chandelier d'or dans le lieu saint, devant le trône qui se trouve dans le lieu très saint. Ensuite, nous voyons aussi qu'il voit quelque chose au verset 6. Et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Là, il faut expliquer en 1 roi 7, la cuve d'eau pour laver les mains et les pieds des sacrificateurs se trouvait devant le temple de Salomon et est appelée en 1 roi 7 la mer, en hébreu yam. Et voilà, le terme yam signifie en hébreu et la mer, mais aussi une cuve. Donc, il voit cette cuve, mais comme de verre. Ce n'est pas en verre, mais comme. Pourquoi? Parce que la cuve, déjà au tabernacle et aussi au temple de Salomon, était faite de cuivre, donc sous forme de bronze. Et voilà, déjà à l'époque de Moïse, nous apprenons comme cette cuve a été faite par les miroirs des femmes. Et donc, ce cuivre était tellement bien travaillé qu'on pouvait se voir dedans. Et cette cuve céleste est tellement parfaite que c'est comme de verre. Ensuite, au chapitre 5, lorsque Jean voit de nouveau vers le trône de Dieu, il voit comme dans la main de Dieu qui se trouve sur le trône, assis sur le trône, il y a un livre avec sept sceaux. Personne est digne pour ouvrir ce livre, si ce n'est l'agneau de Dieu. Donc il voit tout d'un coup l'agneau de Dieu au milieu du trône, c'est le Seigneur Jésus comme homme. Au ciel, il est dit un agneau comme sacrifié. Donc, le Seigneur, nous allons le voir au ciel comme homme, mais toujours avec les signes de sa souffrance, de ses souffrances. Eh bien, quel est le contenu de ce livre? Nous allons voir que ce livre des sept sceaux est le livre des jugements. Et seulement le Sauveur, Jésus-Christ qui a donné sa vie, est digne pour apporter le jugement sur la terre. C'est pour ça qu'il est le seul qui est digne pour ouvrir ce livre. Eh bien, on déclare au ciel que le lion de la tribu de Juda a vaincu, et c'est pour ça, lui est digne pour ouvrir le livre des sept sceaux. Et lorsque Jean se tourne pour voir le lion, il voit justement l'agneau de Dieu. Un agneau avec sept cornes. Ça semble être un peu spécial, n'est-ce pas? Mais nous avons une race parmi les agneaux qui, comme on voit sur cette image, peut avoir quatre cornes. Donc, ce sont des agneaux qu'on appelle agneaux Jacob. Quatre cornes, c'est aussi possible six cornes. Mais ce qui est spécial en rapport avec le Seigneur, Jean voit un agneau avec sept cornes, ce qui parle de la perfection. Donc, le Seigneur est le lion et l'agneau. Comme agneau, il a souffert pour nos péchés lors de sa première venue. Et comme lion, il va venir comme le juge puissant de l'avenir. Il est maintenant 9 heures et c'est le moment, jusqu'à la pause, de poser des questions pendant 5 minutes.
Merci Roger pour cette première partie de présentation. On a une question qui nous est posée, donc si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire en bas de votre écran. Vous remarquez qu'il y a des petites bulles avec un QNR. Et puis là, vous pouvez poser l'une ou l'autre question et ça sera certainement un plaisir pour Roger d'y répondre. Nous avons une première question par rapport à ce que tu as dit sur les chapitres 2 et 3 qui pouvaient être vus comme un panorama de l'histoire de l'Église. La question est la suivante. Il était indiqué pour l'Église d'Éphèse que c'était une Église hors persécution jusqu'à la fin des apôtres. Mais nous voyons les chrétiens fortement persécutés déjà à ce moment-là. Point d'interrogation.
Oui, alors c'est une bonne question. N'est-ce pas, les persécutions sous l'Empire romain sont divisées en principalement 10 vagues. Et ce n'était pas toujours une persécution qui était dans tout, se réalisait dans tout l'Empire romain, mais était souvent seulement local. Et donc, nous avons deux parties de l'Église au même temps, donc une partie qui n'a pas souffert par la persécution et une partie qui a bien passé par la persécution. C'est pour ça que j'ai indiqué Éphèse représente donc l'Église au premier siècle qui n'était pas sous la persécution, et Smyrne parle de ceux qui ont passé par la persécution romaine.
Merci. Autre question. Que pensez-vous de l'interprétation? Alors là, on vient dans les différentes typologies d'interprétation de l'Apocalypse. Hein. Que pensez-vous de l'interprétation amillénariste et du fait qu'elle soit assez répandue? Donc, pour ceux qui sont amillénaristes, la plupart de l'Apocalypse serait déjà passée. Certaines justifications semblent correspondre à des événements passés.
Voilà, c'est bien et toujours plus répandu, mais il faut d'abord expliquer le terme amillénariste. Donc, la position amillénariste veut dire sans millénium. Mais bien entendu, il croit quand même au millénium, mais amillénium veut dire pas de millénium à l'avenir. Donc, cette position dit, il y a différentes variations, mais la plupart croient que nous sommes actuellement au temps du millénium. Et voilà, Apocalypse 20 nous dit, pendant les 1000 ans de ce royaume, Satan sera lié. Mais aujourd'hui, nous voyons que Satan est justement en train d'agir d'une façon terrible. Nous constatons qu'il n'est pas lié. En plus, une fois, une étudiante d'une école biblique m'a demandé comment il faut voir ça, cette question avec le millénium aujourd'hui. Alors j'ai dit, prends dans une main un peu de l'herbe, dans l'autre, tu prends de la viande, tu vas au zoo et tu essayes de donner au lion. Et alors, s'il prend les herbes, nous sommes déjà au millénium. S'il prend la viande, nous ne le sommes pas. N'est-ce pas? On peut dire que les faits bibliques ne correspondent pas à cette interprétation. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit donc l'Apocalypse s'est déjà réalisé au temps passé, il faut dire, mais historiquement, ce n'est pas du tout vrai. Parce que ce qui s'est passé dans les 2000 ans passés ne correspond pas du tout à ce qui est prophétisé dans le dernier livre.
Très bien, merci Roger pour ces deux questions. Il est 21h06, on va s'arrêter là et puis proposer aux uns et aux autres de faire une petite pause de 6 minutes jusqu'à 21h12, on va être précis. Et puis on reprendra à ce moment-là la suite de la présentation. À bientôt.